Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit, pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor au ciel. » Puis, « Viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Alors, Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus le regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est une question que nous nous posons. C'est une question que chacun, chacune de nous, à un moment donné, se pose dans la vie. Et moi, dernièrement, une question semblable m'a été posée. Après la célébration des funérailles de mon frère à Calgary, un ou deux jours après, j'étais dans la salle de famille avec ma belle-sœur. Et puis, elle me pose la question, « Penses-tu que Eugène a une bonne place au ciel ?» Alors, moi, j'ai dit, « Écoute, moi, je fais confiance en Dieu. S'il y a une personne qui ouvre son cœur à Dieu, qui essaie de faire son possible sur la terre, dans ma foi, moi, je crois que Dieu va l'accueillir. » Mais en fait, la question est fondamentale. Chacun, chacune d'entre nous peut se demander, où allons-nous? Est-ce que, comme nous disons, nous allons partir au ciel? Est-ce qu'il y a une garantie pour aller au ciel? Alors c'est la question en fait que le jeune homme ou l'homme qui se présente à Jésus, eh bien, pose. Mais maintenant, moi je me dis, avant d'aller dans le fond de l'enseignement, il me semble que le passage qu'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, verset 6, qui dit à peu près ceci, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus reçurent le nom de chrétiens. Tenez-vous bien là. Ce n'est pas nous, du jour au lendemain, on s'est levé, on va s'appeler les chrétiens nous autres là. Du tout. Ce nom-là est venu des païens, des gens qui voyaient comment les disciples de Jésus vivaient. Parce que les disciples de Jésus se référaient continuellement au Christ. Ce qui comptait vraiment pour eux, c'était le Christ. Leur projet de vie, le Christ. Leur manière de voir, le Christ. Quand ils devaient prendre des décisions, le Christ. Toujours se référer au Christ. Le Christ était le centre de leur vie, était le tout pour eux. Alors, les gens qui les voyaient vivre, les ont surnommés, ce sont des chrétiens, si vous voulez. Alors en français, nous disons chrétiens, les suiveurs du Christ, parce qu'ils mettaient le Christ au centre de tout. Alors il me semble que l'attitude des premiers disciples, qui est rapportée au chapitre 11 des Actes, est la clé d'interprétation pour l'évangile d'aujourd'hui. Ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, en fait, il veut dire qu'il est l'amour premier, qu'il veut la première place dans nos cœurs, il veut la première place dans nos esprits, il veut notre première attention. Voilà, cet homme-là qui arrive, comme nous dit l'évangile, lui pose la question, c'est quoi qu'il me faut pour avoir la vie éternelle? Alors le Seigneur de lui dire, eh bien, tu sais le commandement de Dieu. Et là, je trouve important parce que, je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà entendu des commentaires, des gens qui disent, oh le commandement c'est l'ancienne alliance, c'est l'ancien testament, nous on n'est pas tenus au commandement, nous autres là nous sommes des chrétiens, c'est seulement l'amour. Non. Les commandements, c'est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, notre Seigneur a écouté cet homme-là qui a dit qu'il a été fidèle au commandement. Il a dit, c'est bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il était impressionné de voir comment cet homme-là était fidèle au commandement. Alors c'est pourquoi, il me semble, c'est une belle opportunité aujourd'hui pour vous et pour moi de réfléchir et de revenir sur le commandement de Dieu. Parce que ce sont des balises qui nous conduisent, qui nous montrent la direction qui va au ciel. C'est la fondation qui permet, même le tremplin, qui nous propulse, qui nous lance pour aller vers le ciel. Alors rappelons-nous, c'est quoi le commandement? Jésus vient de le dire. Eh bien le commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne commettras pas de faux témoignage. Tu ne dois pas faire de tort à personne. Honore ton père, honore ta mère. Les commandements de Dieu. Alors, c'est là la fondation. Alors, quand on le suit, alors on regarde le Seigneur. Mais maintenant, pour être disciple, pour davantage suivre Jésus, nous dit, il ne faut pas se limiter là. Donc, il faut aller encore plus haut. Le commandement nous propulse. On fait plus que les 10 commandements. Alors, le Seigneur dit, il dit à l'homme, va. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Puis, viens et suis-moi. Toute la question, c'est d'avoir, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par les richesses? Est-ce que nous sommes des riches? Regardez, les psychologues, même les sociologues aujourd'hui, ils disent que notre culture actuelle est appelée l'hypermodernité. Alors dans l'hypermodernité, ce qui compte, c'est la conscience de soi. C'est le choix personnel. C'est en fait le moment présent qui compte. Ce sont les émotions personnelles dont il faut tenir compte. Ce sont les valeurs que nous choisissons nous-mêmes. C'est la liberté qui est importante. Et puis, ce sont les réseaux de communication presque illimités. Et nous vivons dans une période de superconsommation. C'est tout ça. Mais maintenant, quand nous regardons comment tout ça, comment nous vivons dans tout ça, les dangers, c'est que notre cœur soit encombré. Les dangers, c'est que nous soyons accaparés. On est divisé, on est partout. On veut tout avoir, on veut tout ramasser. Et même, nous sommes habitués maintenant à une culture du jetable, du temporaire. J'habite cette maison aujourd'hui, 6 ans, il faut que je la change. C'est sûr, 6 ans dans une maison, il faut changer une autre. Et la voiture a fait 3 ans, il faut la remplacer. Continuellement. Alors quand on regarde notre vie, il y a toutes ces choses-là. Ce sont parfois même des valeurs qui se contredisent. Mais la question, c'est de savoir si notre hypermodernité nous empêche d'accueillir le Christ. En d'autres termes, est-ce que dans mon agenda, tel que je m'organise, dans mon plan quotidien, est-ce qu'il y a de la place pour Dieu? quand j'ai fait mon programme de la journée, à partir de 6 heures du matin quand je me suis debout, jusqu'à 23 heures quand je me couche, où est Dieu là-dedans? Est-ce que j'ai le temps de mettre à genoux et de faire un dialogue avec le Christ? Suis-je chrétien dans le sens que est-ce que c'est Dieu qui occupe ma première place? Est-ce que c'est le Christ comme le premier chrétien par qui nous jurons? Est-ce que c'est le Christ qui nous donne le ton, l'orientation de la vie? C'est ça être chrétien. Alors ce que le Seigneur demande, il veut avoir la première place dans notre cœur, la première place dans notre vie, la première place dans notre esprit. Il veut avoir notre attention. C'est ça qu'il demande en fait. Maintenant le danger, c'est penser qu'il s'agit seulement de la richesse matérielle. Mais il y a aussi d'autres types de richesses. Ça peut être tes défauts, mes défauts à moi. Alors nous les gardons, nous les entretenons, ne voulons pas nous débarrasser, ne voulons pas vendre nos défauts. Ça peut être aussi nos passions. Moi je tiens à mes passions, on ne veut pas quitter nos passions. Ça peut être aussi notre richesse. Ça peut être cette haine qui nous entretenons en nous, cet esprit de vengeance qu'on veut garder continuellement. Alors à ce moment-là, on ferme la porte, on refuse à donner au Christ la première place. Alors c'est que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes invités à nous regarder en profondeur et à voir si vraiment Dieu est le premier en tout. D'ailleurs, ce qui est beau, c'est que le Seigneur lui-même nous dit, en fait, « Cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné. » Le Seigneur ne refuse pas qu'on ait des biens matériels. Le Seigneur ne refuse pas qu'on entretienne des liens de fraternité. Mais quand tu commences avec Dieu, il va te donner le ton. Comment entretenir ton amitié? Comment aimer ton mari? Comment aimer ta femme? Comment aimer tes enfants? Il te donne la lumière. Donc tu commences avec lui et tu vas voir que tout va se replacer et chaque chose aura sa place. En fait, on a été créé pour ça, pour donner la première place à Dieu. Et avec cela, eh bien, les choses s'organisent comme il se doit. En fait, pour revenir à la question de l'homme, il dit voilà, il demande la vie éternelle. Et les disciples sont étonnés de la réponse de Jésus. Finalement, Jésus dit écoutez, pour les hommes, c'est impossible. Parce que c'est exigeant la vie chrétienne en fait. Maintenant, le Seigneur, en fait, ce qui est formidable, c'est qu'il te donne les exigences, il te donne la force de les faire si tu es ouvert à lui. Il t'appuie, il t'accompagne avec son esprit, il te donne la possibilité d'accomplir, de réaliser ce qu'il te demande. Alors il faudrait cet entraînement du cœur, cette ouverture du cœur pour approfondir la vie de communion avec lui. Alors c'est pourquoi justement, moi je trouve une parole d'espérance, le Seigneur qui dit, pour Dieu tout est possible, car rien n'est impossible pour lui. C'est que même la question de ma belle-sœur, même la question que nous posons nous tous là, nos parents qui sont décédés, nos arrière-grands-parents, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Même si nous avons des hésitations dans nos cœurs, parole d'espérance, rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur peut prendre le petit bien que les gens ont fait, que les âmes ont fait, pour le transformer et leur donner accès à son paradis au ciel. Et l'accès au paradis, c'est le Christ qui le donne en fait, c'est Dieu qui ouvre la porte. Et lui, il demande cette ouverture, cette confiance qu'on se tourne vers lui. À Rome ce matin, le pape a canonisé 6 nouveaux saints, ou 7. Alors parmi eux, il y a, si vous vous rappelez, l'ancien cardinal, l'archevêque de Saint-Salvador, hein, Monseigneur Oscaro. Hein. Alors lui là, vous le savez, il était tué en train de célébrer la messe. Et il a été tué. Alors aujourd'hui, il proclamait ça. Mais en fait, je me dis, cet homme-là, pourquoi il a été tué? C'est parce qu'il défendait la cause des pauvres. Il disait, vous là, les richesses que vous les avez plus chez les autres. Il faut savoir partager. Alors la classe riche n'a pas apprécié cela et s'est organisée pour l'éliminer. Alors cet homme-là, c'était quoi sa richesse? Dieu. Regardez, on entend qu'il y a des persécutions encore dans l'Église, hein. Quand on est persécuté, on donne sa vie pour Dieu. C'est quoi la richesse? C'est Dieu, la richesse. Tu vois que toute autre chose peut tomber, tu acceptes de mourir pour lui. Ça, c'est considérer Dieu comme ta richesse, comme Dieu, qui a toujours la première place. Je termine avec ceci. Regardez la prière de Salomon. Vous vous rappelez Salomon, le jeune roi, quand il était encore jeune, alors le Seigneur lui dit dans sa prière, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alors Salomon réfléchit, il dit, Seigneur, je suis jeune roi, je dirige ton peuple, donne-moi la sagesse, donne-moi l'esprit de discernement, que je sois en mesure de guider et de rassembler ton peuple et de le conduire à toi. Dieu s'étonne, Salomon, tu ne demandes pas le pouvoir, tu ne demandes pas la puissance de tes ennemis, tu ne demandes pas la richesse, tu me demandes la sagesse. Et lui donne la sagesse. La richesse va suivre, il sera riche. Alors moi je crois, ma prière pour moi, pour vous, pour chacun, chacune d'entre nous aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous donne sa sagesse, nous donne son esprit, pour que nous le prenions toujours pour notre premier bien, pour notre première richesse. Les autres choses, ne vous en faites pas. Ça arrivera, car rien n'est impossible à Dieu. Amen.